Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau. Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine de la double soirée, double bonne soirée parce que ça commence sur le net à 18h. On est en avant-première sur franceinter.fr et bien sûr en podcast. Et ça recommence, mais cette fois-ci c'est à l'antenne, version beaucoup plus classique comme tout le monde, 22h minuit. Ce soir, du live, une session 4 titres, c'est exceptionnel dans le Énervé, avec notre invité royalement suédois, JJ Johansson, nouvel album King Cross, Marion Guilbeault.
C'est sans doute son disque le plus bergmanien, Laurent, le Crooner suédois est en live dans quelques minutes.
Les nouveautés nouvelles, puisque nous sommes jeudi, ça passera par qui ?
Ça passera par des reprises avec Nouvelle Vague qui sont de retour, une découverte avec Dana Garansky et la voix de la ligne 2. La ligne 2 du métro, c'est celle de Mohamed Lamouri.
Et puis direction Avignon où j'ai rencontré Francesco Vezzoli. Il est l'invité de la collection Lambert où il s'expose. Francesco Vezzoli, c'est une des stars de l'art contemporain qui a imaginé des programmes de jeux, de télé-réalité avec Catherine Deneuve en Italie, qui a fait un film avec Sharon Stone et Bernard-Henri Lévy, qui a imaginé une performance toute rose avec Lady Gaga. À Avignon, il expose des sculptures antiques pleines de larmes, des larmes qu'il brodait à ses débuts sur des portraits d'actrices de l'âge d'or hollywoodien. Et dans le NRV La Suite, une surprise signée Christophe Bourseiller. Le NRV, allez, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Parfois, je devrais parler un peu moins vite. Les mots arriveraient beaucoup plus facilement. Marion Guilbeault.
Ça fait plus de 20 ans qu'on craque sur la voix de tête de ce dandy scandinave, sur sa retenue, son mélange si particulier de jazz, de trip-hop, de musique de film. Son film, à lui, est noir, cérébral, élégant, énigmatique et toujours amoureux, bien sûr. C'est le fantomatique Chet Baker qui lui a donné envie de chanter avant de faire danser la planète. En 2019, JJ Johansson revient aux fondamentaux avec un nouvel album, King's Cross. Son spleen est toujours aussi givré, c'est comme ça qu'on le préfère. On va parler musique, cinéma, peinture, mode, whisky, tout ça avec lui dans quelques minutes après ce premier live. C'est à vous, JJ.
I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Surrounded by the city noise, machines and screaming cars, a tiny sound my attention caught. Out from a crowded bar, I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. I try to sit and compose. It happened just the other day. Went through the old open balcony door, I was transported away.
Mm-hmm.
Super. Merci.
Je n'oserais pas siffler comme lui.
Je ne sais même pas siffler.
Somebody Whistle, JJ Johansson. Premier titre live ce soir dans le Énervé. Il était accompagné, comme toujours, par le fidèle Eric Janson au piano. Rejoignez-nous, JJ.
Il va venir se rejoindre à nous. Exactement,
oui,
ça, JJ Johansson. Vous parlez français ou...
Je comprends, oui, mais je ne parle pas bien, non.
Quand même, ça commence à venir, dites-moi.
Bah, y a une histoire particulière avec la France, JJ Johansson. Oui. Tout a commencé un peu ici, en 97, avec un premier album, Whisky.
Ouais.
Je crois que c'était un des premiers territoires... à l'époque, à avoir sorti l'album.
Ouais.
Et c'est un peu chez nous que tout a commencé.
Absolument, ouais.
Vous chantez en anglais. Quelquefois, il y a des paroles françaises qui se glissent. Hein, j'ai déjà entendu ça. Jamais en suédois. Le suédois, c'est une langue qui ne chante pas. Ou c'est un positionnement politique de votre part, Johansson.
Je crois que j'écris toujours en suédois. Et après, je me traduis vers l'anglais.
I don't sing in Sweden. I think
cependant, je ne chante pas en suédois, non.
My texts are too private. It would be too
ce serait trop
to sing these
intime. Ce serait trop vraiment, ce serait trop triste de chanter ces chansons-là dans ma propre langue.
It becomes a nice little gap between me and
j'ai besoin de cette petite différence entre moi et cet espace, ce recul avec l'histoire que je raconte.
Depuis le début, vous avez toujours chanté en anglais, même quand vous étiez punk à l'âge de 10 ans
That was in Swedish.
Ça, c'était en suédois.
Ah,
oui,
je me doutais bien, quand même, à 10 ans, composer en anglais, il fallait être un génie. Mais être punk à 10 ans, c'est une légende urbaine ou ça a vraiment existé?
For kids, it's.
Pour les enfants,
easier to
c'est plus facile
try to make something noisy than to make
d'essayer de faire du bruit que d'essayer de faire quelque chose qui soit beau.
It was funny because my first concert
c'était drôle parce que mon premier concert
non-smoking generation festival.
C'était au festival des non-fumeurs,
ouais,
de la génération non-fumeurs, en 79.
That was my first festival.
C'était mon premier festival.
Vous aviez quel âge?
I was 10, yeah.
J'avais 10 ans.
Il y a des festivals en Suède qui s'appellent le Festival des non-fumeurs. Ça existe vraiment.
Quel magique.
Yeah, they had a strong, let's say, the government,
à l'époque,
I guess, from the beginning, were trying to
le gouvernement, l'État, en tout cas, essayait vraiment d'empêcher les gens de fumer, en tout cas qu'ils fument moins.
People to drink less as well.
Ils voulaient qu'ils boivent moins aussi.
But I don't think they succeeded very
well. J'ai pas l'impression qu'ils aient eu grand succès.
Et dans ce groupe, vous faisiez la voix ou vous jouiez d'un instrument?
I was playing bass and singing, yeah.
Je jouais la basse et je chantais.
Vous étiez combien?
Three.
Trois.
Qu'est-ce que sont devenus les autres?
One guitar player, one drummer. I don't know what they're doing actually.
Un batteur. Je ne sais pas. Je me suis un peu éloigné de cette vie quand j'avais 15 ans.
Marion.
Vous êtes revenu vivre à Stockholm, en Suède. Vous avez vécu un peu partout dans le monde. Vous avez beaucoup voyagé depuis 22 ans. Qu'est-ce que le retour en Suède a permis en termes d'écriture? Est-ce que ça a été un moment nécessaire? En quoi ça a été nécessaire de retourner chez vous?
Well, I guess I could write.
Je pense écrire n'importe où.
Sweden is a nice place.
Mais la Suède, c'est un joli pays, hein, c'est agréable.
I like it. I mean, we
j'aime
live
bien.
In the suburbs.
On habite dans un faubourg, dans une banlieue.
I prefer not to be in the city center.
Je préfère ne pas vivre au centre. Je préfère être un peu en dehors.
Yeah. Et politiquement, la Suède?
We are in a mess, but we are not
chez nous, chez
as
le
much
bazar,
in a mess as all the other
mais pas autant
studied,
que les autres pays que je peux étudier.
We're okay
donc
to,
ça peut aller, hein, comparé à d'autres, hein. Ça pourrait être pire.
Are you sure we're start talking about politics?
Vous voulez vraiment qu'on commence à parler politique?
Ah, on peut.
Ça peut durer deux heures.
Ah oui, parce que vous
then
avez.
We have to invite Eric on the table.
Il faut
well.
Qu'on invite Eric aussi, qu'il nous rejoigne au micro.
Pourquoi vous avez un positionnement politique, M. Johansson?
Absolutely, yeah.
Absolument, oui.
Ça commence à s'entendre un petit peu sur ce disque-là.
You think so?
Oui, je pense, en demi-teinte. Je ne sais pas si c'est le fait que je vous connais un petit peu, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une sensibilité peut-être un peu écologique, un peu climatique. Peut-être le fait d'être devenu papa
qui
fait que on est un
je
petit peu.
Je me rends compte que ça se ressentait.
Yeah,
mais tout à fait.
Course,
j'ai l'impression qu'en tout cas, la tristesse qui avant peut-être se rapportait peut-être à votre personne, elle peut s'étendre aujourd'hui peut-être à une génération ou peut-être à un pays ou peut-être même à l'ensemble de la planète. non?
Oh, maybe. Peut-être. I thought it was more about age.
Je pensais que c'était l'âge qui m'amenait ça, mais
le fait de devenir père, peut-être.
That had a strong effect on
ça, effectivement, ça m'a beaucoup influencé. Life, tout dans ma vie, en fait, a été changé.
That was the moment when I stopped being suicidal.
C'est le moment où j'ai arrêté d'être suicidaire.
Vous l'avez été longtemps? Vraiment?
From 14
ah oui,
to
de 14 à 30 et quelques années, oui.
Depuis combien de temps vous vous connaissez avec Marion Guilbeault?
Depuis 1997.
Ah, yeah. Depuis le premier album?
Yeah, sure.
Quel était votre lien avec J.J. Johansson à cette époque-là?
Allez, à cette époque, j'étais du côté obscur de la force.
C'est-à-dire?
J'étais attachée de presse et j'ai travaillé comme attachée de presse sur le premier album de J.J.
We were pretty horrible at the time.
On était horrible, hein, c'était moche.
Ils étaient magnifiques.
C'était super, c'était une révélation.
Ils étaient incroyables. Ils étaient, non, ils étaient incroyables.
Donc vous savez absolument tout. Vous savez absolument tout. Les attachés de presse savent tout.
I think you were the only person that we didn't make
la seule, peut-être qu'on n'a pas fait pleurer. Autrement, on était vraiment horrible.
C'est moi qui m'en charge. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est moi qui m'en charge.
C'est lui. Non, mais c'était un moment assez magique de défendre ce disque de JJ. On sortait de pas grand chose en musique. Il y avait un courant qui était assez intéressant. C'était le courant trip-hop en Angleterre avec Portishead, avec Massive Attack, avec des gens comme ça. Et puis JJ est arrivé avec tout de suite un son, une voix. Déjà, il y avait tellement pas de gens qui chantaient bien que d'avoir quelqu'un qui arrivait avec cette voix. Et puis voilà, ce mélange dont je parlais tout à l'heure.
Elle est vraiment restée attachée de presse, hein?
Non, mais c'est important
attachée de presse
d'aimer.
Un jour, voilà, attachée moi, je, de presse non, toujours.
Je sais que dès que j'ai écouté les premières notes,
moi aussi j'avais le premier album.
Oui, j'ai envie de défendre ce projet. Voilà. Et donc on a travaillé ensemble sur deux disques et on a fait des tournées avec Eric, avec toute la troupe.
On va revenir sur ce parcours, mais tout de suite, vous nous avez envoyé trois sons qui vous ont marqué ou peut-être qui vous ont construit. Le premier, un son de restaurant.
Detroit, a Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reported to be driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police.
Alors on a même deux sons, on a un son de restaurant et puis le groupe Kiss qui arrive. Mm-hmm. Qu'est-ce que ce son représente pour vous alors, J.J. Johansson?
I think it was the first. This is from 1976.
Ça c'est 1976. That was the first time I C'était la première fois que j'ai compris
impact of
l'impact
field recording.
De l'enregistrement sur les lieux même.
And since then I've been really fascinated
et depuis, ça
by that,
me fascine.
It also was leading me into
ça m'a aussi mené à découvrir Brian Eno, ce genre de musique, la musique ambient.
C'était
une minute trente d'ambiance de restaurant qui commençait, qui était l'introduction à ce disque. J'étais un grand fan de Kiss. Yeah.
Deuxième son, des chiens. Et alors là?
Yeah, this is a field recording I did
ça,
when
c'est
we were
un enregistrement que j'ai fait moi-même quand j'étais en tournée au Brésil. J'étais dans un hôtel, dans cette chambre, et j'ai entendu des chiens se battre dans la rue.
Et c'était
super. Et il fallait que j'ouvre la fenêtre et j'ai voulu vraiment enregistrer.
Yeah, I mean, the field recordings has been something that I have.
Ces enregistrements vraiment en direct dans la rue, sur les lieux même, c'est quelque chose que j'adore. J'adore enregistrer du son.
Vous les réintégrez quelquefois dans les albums?
Absolutely. Yeah.
Tout à fait. Imaginez. Par exemple, le dernier son en date que vous avez intégré, c'est quoi?
I mean, on the new record, King's Cross.
Sur ce dernier disque. King's Cross, il y a quelques comme ça d'enregistrements d'ambiance. Sur Everything I Own, il y a donc ces chiens, ils sont là. Le troisième son qu'on va entendre sera intégré à une chanson qui sera sur un EP qui va bientôt sortir.
Ben c'est une avant-première.
Yeah.
J.J. Johansson.
You know, I mean, the people outside a restaurant or a club.
Les gens au restaurant, dans un club.
Street sounds.
La rue, quoi. Le bruit de la rue. La ville.
Also something that
c'est quelque chose aussi que tout le monde peut comprendre.
I have moved away from the city center.
Je me suis éloigné, moi, du centre des villes. Mais cependant, elles ont un grand impact sur moi.
Vous vous enregistrez quand vous faites l'amour?
I haven't done that yet. But,
non, j'ai pas fait ça encore.
Pour le prochain album.
Je dois faire.
Pour le prochain. Marion est atterrée.
Je sais pas si c'est mon style.
Elle se dit, qu'est-ce que c'est que cette question? C'est pas possible. Allez, on passe au micro.
On y va, on y retourne, JJ.
En live.
Yeah, let's sing some more, yeah.
Allez, on va chanter un peu plus.
Rendez-vous.
Et vous, Marion, vous vous enregistrez?
Mais dites donc, c'est quoi ces questions, là? Vous croyez que je vous réponds comme ça? Bien sûr, encore mieux, tiens, je me filme, bien sûr. Deux titres, deux autres titres. Deux autres titres de cet album, oui, King's Cross. Et une surprise, c'est une reprise. It's up to you, JJ.
Yeah, we're gonna. Next track is a song called Not Time Yet. It's the opening track on my new album, King's Cross, yeah. Four, three. It's not time yet. I'm not done yet. Haven't finished what I started. I'm not ready to leave yet. I just can't go right now. It's much too early. Please let me stay. Just a little bit longer. I've been walking on the edge. I don't know.
next song we're going to do is a track that had a huge impact on me as a kid.
Quand j'étais enfant, cette chanson a eu vraiment beaucoup d'impact sur moi.
Came back in, I think it was 1979. It's Joy Division.
1979, je crois. C'est Joy Division. Love Will Tear Us Apart.
Routine bites hard, and ambitions are low, and resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roads. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Bedroom so cold, turn away on your side. Is my timing that flawed? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we kept through our lives. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. In my mouth as desperation takes hold. Oh, that something so good just can't function no more. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart. So next song,
la prochaine chanson,
is from my album King's Cross. This track is called Old Dog.
C'est, elle s'appelle Old Dog et donc elle est tirée du dernier album King's Cross.
Ain't so say it ain't so. I just can't believe it's true. But I assure you, it's not the right one for you. Don't try convince yourself that it's good for you, when you know it's not true. Say it ain't so. Can you explain? Say it again. Tell it to me like a friend. I know you know it'll always be the same. No matter what he'll say, old dogs never change. You'll end up crying again. Can you explain? Not like I do, not like I do. Baby, I was always there. And you should know, it doesn't really care. He doesn't talk about you with his friends. He doesn't think about you when he goes to bed. Oh no, not like I do.
Dans le Énervé ce soir. Il sera en concert aussi au Café de la Danse à Paris le 8 mai. La prise de son est assurée par Loïc Frapsos, Stéphane Boja et Mathias Alléon. Et à la vidéo, parce que vous pouvez retrouver les images du live de JJ Johansson, sont signées Sandrine Laurent. Bon, JJ, vous venez, vous venez.
Vous venez nous rejoindre.
Vous venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre.
Mais on change de micro.
Bien sûr.
Quel est le sens de cette reprise pour vous? Reprendre Joy Division, ça signifie quoi?
I'm not a very big fan of making covers.
Je suis pas un si grand fan des reprises. D'autres personnes, d'autres chanteurs font ça bien mieux que moi.
When somebody
Mais quand on m'a demandé d'en faire, ça a été assez intéressant de faire un choix. Et ça, c'était même pas le choix le plus évident, mais c'est une chanson que j'adore, vraiment. À l'époque, c'était fascinant d'étudier, de voir comment Joy Division a évolué et comme ils sont aboutis à New Order. Fin des années 70, début des années 80, c'était une époque de grande inspiration pour moi, pour moi, et d'ailleurs ce nouvel album, King's Cross. C'était le post-punk à Londres à l'époque.
Puisque vous parlez d'évolution, on retrouve J.J. Johansson à ses tout débuts, en 97. Le son, c'était ça. So tell the girls that I am back in town. You better tell them to beware. Where they may go or they might try to hide. I follow on and I'll be there. Je me souviens, ça avait été un choc. Pour vous aussi, Marion, vous étiez attaché de presse.
Oui,
moi,
oui,
j'étais
oui.
simplement auditeur et j'avais acheté l'album, je me souviens. Comment vous regardez aujourd'hui le son que vous aviez déjà à l'époque?
L'idée que j'avais à l'époque, c'était plus ou moins l'idée que je travaille encore aujourd'hui. D'essayer d'apporter du jazz dans la pop, avec beaucoup d'influences du cinéma, de la musique de bande originale, par exemple.
Mais les bandes originales, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez vous. Le titre que vous avez joué en entrée d'émission, Heard Somebody Whistle, ce sifflet, il vient d'où?
L'inspiration vient de Bernard Herrmann, vous savez, qui a été repris dans Kill Bill et qui est donc devenu célèbre à ce moment-là. J'ai entendu ce morceau et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je fasse un morceau où je siffle, j'ai jamais fait ça.
Soundtrack is there permanently in my life.
Il n'y a pas vraiment de bande originale qui soit quand même permanente pour moi. C'était super de séjourner en France et de venir découvrir des compositeurs français, notamment Francis Lay, dont j'avais déjà entendu parler. Mais j'ai découvert Michel Legrand, en 97, qui a eu une immense influence sur moi.
En 97, du jazz dans la pop. Quelques années plus tard, un virage que moi j'ai adoré en 2002, un virage disco. C'était l'album Antenna, vous aviez tout changé, même la coupe sur la pochette. Je me souviens, vous aviez une coupe très précise.
Très précise,
avec
oui.
une couleur très précise.
Vous pouvez la décrire
Vous vous rappelez comment c'était? Vous pouvez nous décrire
L'idée de ces
trois albums, c'était...
The recipe was the same. I decided
la
to
même
do
recette,
a,
finalement.
A remix album.
Et je voulais faire
and
un album de remix.
Les
chansons que j'avais écrites avaient été remixées par des Allemands. C'était plus un disque de remix. Et puis j'ai décidé de remixer aussi les visuels. De me remixer, moi, de mon look de mon époque.
Avec une coupe moulée. Comment cet album a été perçu?
Ici, en France, il a été détesté.
Oui, moi, je l'ai adoré, c'est vrai. Mais Marion disait que ça avait été difficile en la réception ici.
Ce que j'avais construit pendant 4-5 ans a été complètement jeté à la poubelle.
Mais ça vous a permis d'aller ailleurs. Ça vous a emmené dans d'autres
territoires. Ça m'a ouvert l'Amérique, par exemple. Et pour moi, c'était vraiment important de faire exactement ce que j'ai fait. J'aurais pas fait les choses différemment, même si j'avais eu la possibilité. Ça m'a ouvert de nouveaux territoires, vraiment. Après mon dernier concert en France, en 2000, je suis pas revenu pendant 5 ans. La France me manquait beaucoup.
On aurait pu parler avec vous encore, même de cinéma. Je sais que vous allez avoir un rôle au cinéma. On aurait pu parler d'art, parce que je sais que vous préparez une exposition. Ah ouais. Je me souviens, moi, d'un concert que vous aviez, qui avait été scénarisé, scénographié par Dominique González Forster.
Ah,
c'était pas au Palais Tokyo, c'était juste en face. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Quelques dates de concert.
La prochaine fois.
Eh ben, rendez-vous au Café de la Danse à Paris, ce sera le 8 mai.
Et l'album ?
Et l'album, King's Cross, est déjà sorti.
Merci Marion Guilbeault. On retrouve tout de suite Marion, d'ailleurs, pour les nouveautés nouvelles, puisqu'on est jeudi.
Bonjour à n'importe où, n'importe quand, pour n'importe qui.
Rendez-vous. Vous êtes des policiers ?
Non, madame, des musiciens.
Marion, vous expliquez le principe à votre client ?
En fait, maintenant, le vendredi, c'est la sortie des disques en France et puis un peu partout dans le monde, je crois. Donc, le jeudi, voilà, c'est chronique des nouveautés. Alors là, on va être un tout petit peu en retard. On va commencer avec un projet qui vous est familier, JJ, parce qu'il est initié par deux musiciens français, Marc Collin,
ah ouais,
Olivier Libaud, que vous avez fréquenté aussi à vos débuts. Ce projet, c'est Nouvelle Vague. Alors, Nouvelle Vague, je rappelle, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, la formule est Nouvelle Vague, ça veut dire New Wave en anglais et ça veut dire Bossa Nova en portugais. Donc, si je branche le fil rouge avec le fil bleu, ça donne quoi? Ça donne des reprises de titres plus ou moins connus de la New Wave et du punk en version bossa nova. Et ça se faisait à l'époque avec les voix de la chanteuse Camille. On se rappelle de sa version délirante des Dead Kennedys. Mélanie Pain qui chuchotait les Buzzcocks. Ce genre d'idée qui ne peut germer que dans le cerveau de ceux qui aiment la musique sans étiquette à l'aveuglette. Alors, Nouvelle Vague, ça a été un carton planétaire. Ça a vraiment révolutionné le concept de reprise. Ça s'est poursuivi sur 5 albums avec des nouvelles voix. Bien sûr, il y avait Phoebe Kilder, Gérald Toto, Elodie Frégé. L'initiative a été soutenue par des labels prestigieux comme Rough Trade, comme Loacabop, le label de David Byrne. Et voilà, et en 2019, Nouvelle Vague fête ses 15 ans, tournée internationale, un film réalisé par Marc Collin qui retrace toute l'aventure, deux albums studio avec des raretés et des curiosités, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Can I use my arms? Can I use my legs? Can I use my style? Can I use my sidestep? Gonna use my fingers, gonna use my imagination, 'cause I'm gonna make you see there's no one else here. L'avez-vous reconnu?
Ah bah Chrissy Hynde au départ,
oui,
Pretenders,
oui, Pretenders.
Rest in Pocket.
Voilà, yeah. Bravo.
J'adorais.
Et c'est Slo Shiver qui joue le rôle de Chrissy Hynde, c'est extrait de l'album Rarities, qui sort sur Quedan Records. C'est moins bossa, c'est plus jazzy. Marc Collin, c'était quoi le rapport avec vous, JJ? Quel rapport aviez-vous avec Nouvelle Vague? Vous aviez joué avec eux?
Yeah, no, they had a little side project called Bristol as well. Mm-hmm. They did cover of me.
Ils avaient fait une reprise avec Bristol, je crois. J'ai fait des choses sur scène avec eux.
Ils seront en concert à Saint-Eustache le 6 mai, c'est complet, donc rendez-vous Café de la Danse à Paris les 16 et 17 octobre, on a le temps de voir. On poursuit avec une artiste canadienne, Dana Gavansky, qui chante depuis qu'elle est toute petite dans sa chambre à la chorale, mais aussi lors de rassemblements familiaux l'été en Serbie, parce que cette jeune artiste a cette double culture nord-américaine et européenne. Une maman peintre, un papa dans le cinéma, elle a d'ailleurs longtemps hésité entre l'image et le son, et finalement, comme souvent, c'est un chagrin d'amour qui l'a précipitée dans la musique. Dana Gavansky a récupéré la guitare de son petit ami qui est parti pour New York et elle a appris toute seule à jouer en écoutant John Baez et de la musique folk balkanique. Et c'est à Belgrade, l'automne dernier, qu'elle a fini par graver quelques chansons introspectives sur la vulnérabilité et la reconstruction de soi. On est là tout au début, d'une histoire musicale, c'est fragile et sincère comme on aime. Son nom, c'est Dana Gavansky, One by One, et c'est à retrouver sur le label Full Time Hobby. Et on va clore ces nouveautés nouvelles avec une histoire qui éclot enfin après plusieurs années d'attente souterraine. Cette histoire, c'est celle de Mohamed Lamouri. C'est un chanteur algérien de Paris. Il est arrivé en France en 2003. Certains l'ont peut-être croisé sur la ligne 2 du métro parisien. Moi, par exemple, je me rappelle, je l'ai entendu souvent chanter des reprises complètement incroyables de Billie Jean d'Hotel California, qui laissait le wagon tout chose quand il sortait du wagon. Avec cette voix intense, cette voix complètement déchirante, il avait son casio sur l'épaule. Il a joué comme ça pendant 10 ans, 5 heures par jour, 6 jours par semaine, entre Porte Dauphine et Nation, pour gagner sa vie. Et puis les choses, elles ont basculé pour lui. C'était à l'été 2013. Les têtes chercheuses de La Souterraine, c'est ce super site de découverte musicale que j'adore, qui vont l'aider à articuler sa musique. Alors dans ce répertoire, il y avait des reprises du crooner du rail, Cheb Hasni, mais aussi ses propres compos. Et quelque chose comme 3 mixtapes à déchiffrer, des musiciens à réunir autour de lui, ce sera le groupe Mosla, et puis un nouveau son à inventer entre raï, reggae, musique arabo-andalouse, pour créer ce folklore urbain souterrain unique.
والف صاك ما قدرت نعيش بلا بيك ما قري هجرتينيك ما قدرت انا ننساك توجور خيالك بين عيني انت والف صاك ما قدرت انا ننساك خليتني وحيد يا وحيد انا غزالي انا يا هجرني ما ضنيتش يا انا غزالي انا يا غدرني ما قري هجرتني ما قدرت انا ننسى توجور خيالك بين عيني ما قدرت انا ننسى وروحتي خليتني يا
Anna Rani, signé Mohamed Lamouri, un extrait de son premier album Underground High Love, une programmation Marion Guilbeault.
Et il sera en concert à la Maroquinerie, ce sera le 12 juin à Paris.
Merci JJ Johansson. King Cross, c'est le nouvel album. Merci Harold Manning pour cette interprétation simultanée. Tout de suite, on quitte la Suède, direction l'Italie.
Rendez-vous.
France Inter. Le nouveau rendez-vous.
Il momento di conoscere la nostra prima ospite femminile, Catherine Deneuve.
Buonasera, buonasera.
Le corteggiatori di Catherine sono Maurizio, Sante e Gilberto.
Laurent Goumard.
Buonasera.
Et on ouvre avec Comizi di Amore. C'était un jeu télévisé avec Catherine Deneuve, signé par un artiste Francesco Vezzoli. Un jeu de la séduction, des stars icônes comme Catherine Deneuve, Marianne Faithfull ou Jeanne Moreau étaient séduites par des jeunes gens à la télévision. Un programme style bachelor, mais version hyper glamour. Et le glamour, c'est le sujet de Vezzoli, un artiste plasticien italien, il a 48 ans aujourd'hui, une star de l'art contemporain qui s'est fait connaître fin des années 90 par un travail de broderie. C'était pas commun à l'époque. Il brodait des larmes sur des portraits de star. Aujourd'hui, Vezzoli s'expose à Avignon et cette fois, il ajoute une larme de marbre à une tête antique d'homme achetée en salle des ventes, comme toutes les autres sculptures antiques qu'il expose et qu'il a retouchées, qu'il a repeintes comme elles l'étaient à l'origine. Il a installé ses sculptures face à des œuvres de la collection Lambert, signées Louise Lower, Giulio Paolini ou Cy Twombly, des œuvres qui ont toutes en lien la mythologie. Bref, Vezzoli est ici autant un artiste que le commissaire de son exposition, mais une question arrive très vite. Ces têtes antiques ont été achetées dans des salles des ventes, ce qui laisse supposer que ce serait l'exposition d'un artiste qui a les moyens. Faut-il être riche pour être artiste, Francesco Vezzoli?
Non, pas du tout, parce que je ne suis pas riche. J'adore que vous m'avez demandé ça, parce que c'est exactement le contraire. Une sculpture romaine d'une certaine qualité, peut-être qu'a le prix 10 fois moins cher qu'une œuvre de Mark Grotjan ou d'une autre étoile de le marché contemporain. Et ça, c'est le point que je veux faire. Bien sûr, j'ai rien contre Monsieur Grotjan ou quelqu'un d'autre, mais le point, c'est que le pièce d'archéologie, parce qu'on y parle d'archéologie, parce que sont de la plupart sont de pièces romaines ou grec, ça veut dire qu'au minimum sont des pièces qui ont 2000 années, sont des pièces vraiment uniques qui racontent une histoire et pour moi c'est une émotion vraie. Et ils ne sont pas très chers en comparaison avec l'art contemporain. Et alors ça devient, oui, une statement politique, c'est une invitation à le public à regarder les vraies valeurs des choses.
Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des fausses valeurs dans l'art contemporain?
Oui. Oui, je pense que oui. Mais ce n'est pas une provocation. Ce sont vraiment des mécanismes de production, des spéculations. Et vraiment, je dis rien de nouveau. Mais c'est comme ça. C'est un système qui a des règles. Mais j'aime pas le système et moins encore les règles. Et alors, je m'amuse et je vais à la vente aux enchères et comme une héroïne d'une pellicule de la fin de la carrière de Luchino Visconti comme Laura Antonelli nell'Innocente, je vais acheter les choses et je m'amuse et je les transforme et c'est un double challenge. C'est un challenge vers le système et même aussi c'est un challenge vers la loi, parce que la loi italienne me permet pas de faire ça en Italie. Alors je vais acheter les choses en France ou plutôt à les vendre aux enchères en Amérique ou en Angleterre et j'ai fait la transformation pas en Italie parce que c'est contre la loi.
C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, ça j'ai bien compris, d'acheter des œuvres aux enchères de cette époque-là en Italie, c'est-à-dire les antiquités grecques ou romaines, mais vous n'avez pas le droit non plus en Italie de travailler dessus, d'intervenir dessus, de les coloriser?
Oui, et considérer un crime contre le patrimoine de l'art. Et ça c'est ma provocation, que si je trouve un journaliste ou un critique d'art ou une historienne ou même aussi un politicien qui me viennent à dire « Ah, mais tu fais un crime contre le patrimoine culturel de notre nation », j'ai tout de suite réponse « Pense-toi à tous les crimes que tu fais contre le notre patrimoine, qui est énorme, et t'es laissé là à mourir. »
Oui, donc c'est un geste qui est dirigé contre votre pays, en fait.
Non, c'est pas contre mon pays, parce que j'aime l'Italie à la folie, mais je voudrais une administration qui protège plus l'héritage. Oui, ça sera important. Comme le Qatar a le pétrole, nous avons les têtes de marbre.
Comment vous vous sentez dans l'Italie de Salvini, vous, Francesco Vezzoli?
Alors, je pense que je ne partageais pas les idées de M. Salvini. Mais M. Salvini a reçu le vote du peuple. Alors pour moi, je pense que la question c'est pourquoi l'agent a voulu soutenir Salvini. Et je pense que toutes les personnes qui sont ennoyées avec Salvini, il faut être ennoyé avec soi-même pour avoir pas compris le changement de la vente.
Qu'est-ce que ça voulait dire au début des années 90, dans les années 90, de choisir la broderie? Vous aviez choisi la broderie, j'ai interrogé Grayson Perry il n'y a pas très longtemps, qui lui avait choisi la poterie, oui, comme un geste vraiment politique et social. Vous, la broderie, qu'est-ce que ça représentait? Et comment on vous regardait?
Quand je l'ai choisi, c'était politique et sexuel, parce que mon premier broderie, qu'aucune personne, je pense, n'a jamais vu, sont des broderies de la carte pub de la prostitute. Dans les années 90, dans le cabine téléphone rouge en Angleterre, ou peut-être que vous vous souvenez, tu peux trouver attaché au téléphone toutes les cartes publicitaires de la prostitute. J'ai fait une collection de ça, et après j'ai fait des dessins, et j'ai fait le... Alors j'ai pensé que c'est un peu comme un oxymoron, de prendre une technique tellement domestique, tellement féminine dans un côté, comme dire, la casalinga, la femme de la maison, en face de le petit feu, sur le fauteuil, etc., mais qui, en place de faire un broderie de la montagne ou de les petites fleurs, fait la broderie de la sexualité.
En 2007, vous avez filmé, je me souviens, Sharon Stone et Bernard-Henri Lévy dans Democracy. On les voyait autour d'un bureau ovale, ils étaient candidats à la présidentielle américaine. Vous avez fait un teaser du Caligula de Gore Vidal. Je me suis demandé, quelle était la place de l'art dans votre famille, Francesco Vezzoli? Qu'est-ce qu'on regardait chez vous? Quelle place avait l'art, la culture dans votre famille?
Comme un petit garçon, ma famille m'a porté... avoir beaucoup de cinéma, beaucoup d'expos. Je viens pas d'une famille financièrement riche, mais qui a voulu exposer moi à beaucoup de formes différentes de culture. Et où mon parent, ma mère et ma père m'ont porté à voir l'art contemporain et le cinéma contemporain, j'ai eu des grands-mères qui m'ont porté à voir le théâtre.
Juste une dernière question. Tout à l'heure, au cours du déjeuner, vous disiez que vous étiez le présentateur d'un show télévisé. La télévision, vous connaissez, vous l'avez beaucoup regardé, vous l'avez travaillé d'une certaine façon, puisque vous aviez fait un jeu télévisé dont tout à l'heure je parlais avec Catherine Deneuve. Jeanne Moreau, je crois aussi. Oui, il y avait Jeanne Moreau aussi, oui, des actrices françaises. Ça consiste en quoi, cette émission de télévision?
Il s'appelle Photo Show et il consiste d'être un vrai show télévisif avec les lumières, le public, les applauses, les entrées, les sorties, les actrices, etc. On y parle des photos, on y parle des événements politiques et sociaux de la semaine. Je suis quelque chose entre Bernard Pivot et François Giroud, je ne sais pas. Mais c'est un spectacle. Mais j'ai accepté parce que je suis été appelé comme conducteur. Si je suis été appelé comme auteur, peut-être que j'ai refusé. Mais pas par arrogance au sens de supériorité, mais parce que pour moi, être l'auteur d'une émission télévisive, c'est un peu comme être un artiste. Être le présentateur d'une émission télévisive, c'est un jeu drôle et en même temps horrifique.
Ça a changé le regard que les gens portent sur vous en Italie, parce que si on vous a demandé à vous, artiste contemporain, d'animer une émission de télévision, c'est bien que vous aviez déjà une certaine stature en Italie. Est-ce que ça a changé le regard que maintenant la population porte sur vous?
Moi, non, je l'impression. Ah oui, alors hier, je suis allé au bar et j'ai pris une pièce de gâteau et la jeune femme m'a dit, ah, j'ai vous à la télé, mais si vous voulez aller à la télé être beau, vous pouvez pas manger le gâteau. Et ça, c'est terrible. Et alors, j'espère qu'elle trouve un peu plus de sexe au moins. Comme ça, je ne sais pas. Mais la popularité, pour le moment, elle passe encore à entrer dans ma vie.
Vous manquez de sexe?
Sexe normal, mais pas sexe comme conséquence de la popularité. Il faut que tu viennes à faire une autre interview quand le spectacle c'est fini.
C'était Francesco Vezzoli. Son exposition « Les lacrymées des poeti » se tient à la collection Lambert à Avignon jusqu'au 10 juin. Et bien voilà, le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal et on se retrouve avec ça.
Nous avons oublié de défendre l'Europe. Nous avons oublié de proposer pour l'Europe.
Élections européennes, enjeux et débats. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.